vous dire sincèrement, ces dernières semaines, on enchaîne pas mal. Et la semaine dernière, le Seigneur avait posé un texte sur mon cœur, sur lequel je commençais à prévoir le message. Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord. Alors, bon, on va. Merci, mon frère, d'accepter de te déplacer pour qu'on puisse laisser un tout petit peu arrêt. C'est vrai qu'on a un problème. Il manque un système d'aération dans les locaux. On va essayer d'analyser ça avec le conseil d'administration et trouver une solution. Merci de votre patience. Amen. Amen. Alléluia. Je vous disais, il y avait un texte qui était sur mon cœur et un texte sur lequel on a souvent parlé, prêché, étudié, réfléchi. C'est Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. On va le lire ensemble et après je vous explique comment les choses se sont passées et la manière où le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Il dit le texte, « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. » Et jusque-là, aucun problème. Seigneur, oui. J'ai déjà médité sur ce texte. Seigneur, ok, je vois ce que tu veux me dire. Très bien. Sauf que, le lundi, le constructeur d'une marque d'ordinateur a décidé de changer son système opératif. Je fais la mise à jour. Je me dis, Seigneur, jusque-là, tout va bien. Je faisais ma lecture personnelle. Et après quoi, je vais essayer d'utiliser mon ordinateur et logiciel, il dit non, ça ne marche pas. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc je vais acheter un nouveau logiciel, j'installe et j'essaye d'imprimer. Et l'imprimante me dit non, ça ne marche plus. Et j'en discute avec ma femme, j'essaie de trouver le pourquoi du comment et j'apprends que le fabricant a pris la décision de changer le système et donc tout ce qui est avant une certaine date, c'est obsolète, ça ne marche plus. Et avec ma femme, quelque part, on s'est dit, mais c'est pas normal, on est pris en otage, on est obligé maintenant, bon, ok. Recommande une imprimante, fais ceci, fais cela. Et j'étais, je dois être sincère, hein, légèrement agacé. Légèrement. Parce que je me suis dit, Seigneur, on n'avait pas prévu cet achat. L'imprimante, elle a que 10 ans, elle est bonne, elle est neuve. Je l'ai toujours bien soignée, nickel, propre. Je dis, moi, ça me fait mal au cœur. Du coup, l'ordinateur de ma femme ne pouvait pas imprimer, celui de ma fille non plus, le mien non plus. Alors, il a fallu essayer de trouver des solutions. À la fin, si je dois imprimer en noir et blanc, j'envoie Elisabeth. Si je dois imprimer en couleur, j'envoie Naomi. Mais moi, je fais les escaliers du matin au soir. J'ai dit, Seigneur, tu penses à ma forme. Alléluia. Pas de souci. Mais, Seigneur, je ne comprends pas. Et après, quand j'ai commencé à relire le texte et à préparer le message pour ce matin, quelque chose a interpellé différemment mon cœur. Parce qu'à un certain moment, j'ai eu comme le sentiment que Dieu me disait « t'as pas encore compris ». Quand on lit ce texte, il est question d'une rencontre entre les disciples de Jean qui viennent voir Jésus. Avec cette question de dire « mais comment est-il possible, Seigneur, nous sommes en train de jeûner, puisqu'il est question de jeûner pour le salut du peuple de Dieu. Il est question d'amener les hommes à la repentance. Et toi, tes disciples, vous mangez. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça? Et quand nous regardons la réponse de Jésus au verset 15, il dit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Première question, dans quel temps vivons-nous ? Sommes-nous conscients des temps dans lesquels nous vivons ? Parce que vous savez, nous pouvons rentrer dans un mode de fonctionnement qui est le nôtre, nos habitudes, nos petits train-train quotidiens. On a l'habitude, je ne sais pas vous, le matin, première chose qu'on fait, petit café. Non ? Non, non, moi c'est petit mais costaud. C'est le premier de la journée, il faut que ce soit style goudron liquide. Vous mettez la petite cuillère, elle reste debout. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas ça, le moteur ne démarre pas. C'est un vieux diesel. Et on a nos habitudes. Et il y a par moments des situations où Dieu nous demande, mais est-ce que ton habitude, est-ce qu'elle est bonne ? Et Jésus est en train de dire à ses disciples, écoutez, et aux pharisiens, vous jeûnez par habitude, vous jeûnez par religion, vous jeûnez parce que ça fait partie des coutumes, mais est-ce que vous avez compris dans quel temps sommes-nous ? Vous êtes là avec l'époux, et en réalité, vous vous affligez comme si Jésus n'était pas présent. Et ça m'a interpellé parce que je me dis parfois, Seigneur, on vit notre vie comme si tu n'étais pas présent. On se laisse prendre par ce que les autres peuvent penser ou imaginer de nous. On peut se laisser prendre par les traditions, par l'éducation. Mais Seigneur, dans quel temps sommes-nous ? Est-ce qu'encore il y a des choses de notre passé, de notre entourage, de notre société qui ont une telle emprise sur nous ? Qui nous empêche de nous réjouir de la présence de l'époux. Pourtant, Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14, la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Vous connaissez le texte ? On le lit ? Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces !» Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent ceux-ci à son champ, celui-là à son trafic, les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Attention aux mots. Allez donc dans les carrefours, pas chez Carrefour, dans les carrefours. Amen. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvaient méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. » Si je comprends bien le texte et l'invitation de Jésus, le repas des noces est prêt. Il est venu nous inviter. Et nous ne pouvons pas nous présenter dans la salle des noces sans avoir revêtu les habits des noces. Ça serait déplacé, excusez-moi, qu'on se présente avec les habits du deuil. Ça serait presque une insulte, une provocation. Et cet homme qui se présentera tel qu'il est, comme il est, alors je ne sais pas s'il a entendu la pub « Venez comme vous êtes », il n'a pas compris qu'en réalité, Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et forcément, il y a un changement qui doit se produire dans le cœur. Forcément, il y a quelque chose qui, en réalité, c'est là qui change tout et qui nous permet de participer à ces noces et de vivre de la joie de Jésus-Christ. Parce qu'à l'extérieur, cependant, le temps qui passe fait que les ténèbres se sont cumulées. Et c'est devenu un lieu de pleurs, de grincements, de dons. Amen. De là l'importance pour nous, frères et sœurs, pas seulement de connaître et vivre la joie que nous donne la parole de Dieu, l'évangile, Jésus-Christ, mais de donner envie aux autres, de rejoindre ceux qui sont dans les carrefours, dans les croisées des chemins. Et il dit les bons et les méchants. Ah, les bons, ça va, Seigneur, mais les méchants. Et si tu mets deux bons un à côté de l'autre, ça fait quoi? Ah oui. Mais les méchants, Seigneur. Alors sincèrement, entre nous, on ne dira rien à la personne, mais entre nous, est-ce qu'on était tous bons pour prétendre pouvoir venir dans la présence de Dieu? Moi, je suis plus du côté des méchants, mais changé par grâce. De méchant, Dieu peut nous changer en bon. Amen. Donc, les barrières qu'on pourrait mettre nous, ou voir nous appliquer le monde, Christ les abat, n'est-ce pas? Et Jésus, ce qu'il dit à ses disciples de Jean, il dit, attendez, pendant la présence qui est la mienne ici, sur terre, c'est le temps de la réjouissance, c'est le temps de dire, Seigneur, finalement, la réponse, le temps prophétique qu'on attendait, cette prophétie qui devait s'accomplir, elle est là. Amen. Mais êtes-vous conscient que chaque jour, il y a des prophéties de Dieu qui s'accomplissent? Lisez la parole de Dieu et vous verrez bien que des choses qui ont été prédites bien longtemps en arrière, aujourd'hui, on les vit. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura un temps qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. N'est-ce pas? Sans un certain numéro. C'est quoi? 666. Alors, correspondance dans les lettres, c'est www. À réfléchir. On y va. Hein? Numéro sur le front ou sur la main. C'est quoi? La puce électronique. On y va, non? C'est déjà testé. Certains ont déjà fait le saut. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Puisque Jésus, quand il donne une réponse, ne craint pas d'aller au bout de sa pensée. Et il dit à ses disciples de Jean, il dit à ses pharisiens, maintenant, si vous avez bien compris que le jeûne que vous faites est un jeûne religieux, mais il arrivera le moment où ceux qui aujourd'hui se réjouissent devront jeûner, parce que l'époux sera enlevé. Donc, on est encore dans ce temps de la nécessité de jeûner, demander au Seigneur sa grâce pour le salut des âmes. Amen. On ne peut pas se dire maintenant, on jeûne plus, il n'y a plus besoin. La joie demeure dans nos cœurs. Néanmoins, notre responsabilité est celle de dire, Seigneur, sauve le plus grand nombre. Parce que vous avez entendu ce qui attend ceux qui seront au dehors du salut de Christ, c'est la souffrance, la douleur. Alors moi, je n'ose pas imaginer. Ni mes enfants, ni ma famille, ni mes voisins, ni mes amis, et excusez-moi, même pas mes ennemis, devoir subir ça. Et je me dis, Seigneur, change le cœur de chacun. Et d'ailleurs, Jésus, il entamera une deuxième partie à la réponse que je pense les disciples n'attendaient pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Et il dit, le royaume, il est semblable donc à un époux, première réponse. La condition d'accès, c'est de rentrer avec des habits cohérents, on est d'accord? Mais Jésus dira qu'il y a une tenue spirituelle et une vie spirituelle à avoir. La première, c'est personne ne paie, met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Nous, on est des champions pour faire du neuf avec du vieux. C'est devenu de mode. On appelle ça du vintage. Si vous allez ressortir les vieilles malles et les habits de l'arrière-grand-père, aujourd'hui, c'est au top de la mode. On vous le vend trois fois le prix avant et on vous dit que c'est une nouveauté. Mais combien d'entre vous ont déjà réalisé que ce qu'aujourd'hui les jeunes mettent, c'était déjà à la mode il y a X temps? Il faut juste mettre de côté, on le revend. C'est une possibilité. Mais là, Jésus leur dit, attention, personne ne met une pièce neuve sur quelque chose d'ancien. Je reviens à la pensée de tout à l'heure. Nous, parfois, on dit au constructeur, Seigneur, je veux que tu fasses de moi une âme nouvelle, mais s'il te plaît, ne me change pas tout parce qu'autrement, moi, je suis perdu. J'ai mes habitudes, Seigneur. Alors, tu sais, si tu pouvais me changer sans rien changer, c'est bien. Sauf que le Seigneur nous dit, attention, moi je ne peux pas mettre une pièce neuve sur un habit qui malheureusement a déjà fait son cours et qui aujourd'hui n'est plus en état. N'est plus en état. Si on accepte que le Seigneur vienne dans notre cœur, dans notre vie, frères et sœurs, on doit accepter que le constructeur qu'il est, il fasse une remise à niveau, mais totale. Alors certes, il y a des choses qui ne marcheront plus comme avant. Forcément. Ah mais Seigneur, j'avais l'habitude de faire ça, oui, mais maintenant ça ne marche plus. Seigneur, pourquoi ça ne marche plus? Mais parce que ce n'est pas cohérent. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de l'électronique, de l'informatique, parce que je me suis dit, je veux comprendre quand même. Je suis têtu, hein, je suis calabré, vous m'excusez, mais il semblerait que les calabrés, mais que les calabrés sont têtus. Alors j'ai voulu comprendre. Et en effet, quelqu'un me disait, votre ordinateur n'arrive plus à dialoguer avec votre imprimante. Et des fois, je me rends compte qu'entre la tête et le cœur, on se parle, mais on ne se comprend pas. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me prêcher là? Est-ce qu'il n'y a pas besoin à un moment dans notre vie de dire, Seigneur, fais table rase? Alors vous connaissez ce texte qui dit que ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, on va le lire tout à l'heure. Mais il est question pour nous de comprendre la tenue spirituelle et après la vie spirituelle. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Vivre une vie spirituelle en restant imprégné de rituels religieux, de traditions humaines, c'est vouloir garder un vieil habit avec des rustines. Vouloir revêtir notre nouvelle nature en garder le vieil homme, ça ne marche pas non plus, non? Faire un patchwork qui nous plaît, qui nous convient, c'est du syncrétisme. Je m'explique. Je prends un peu de mon ancienne religion. J'ajoute un peu de cette nouvelle. J'entends dire qu'il y a un nouveau truc à droite, à gauche. Je le prends et je me fais un petit patchwork. Et moi, je vois la foi comme ça. Ça s'appelle du syncrétisme. Et là aussi, on est champion. On a chacun notre manière de voir, de faire. Alors, c'est pour ça que Jésus dira... On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Pourquoi? Parce que le vin allant en fermentation, l'outre n'étant plus élastique, elle explose et l'outre est cassée et le vin est perdu. Or, dans le livre d'Ésaïe, vous le liserez tranquillement à la maison, il est question au chapitre 25, versets 5 à 9, de ce banquet que Dieu a préparé sur la montagne, un festin de mets succulents pour ceux qui rentrent dans cette vision de Christ. Encore une fois, une prophétie qui s'accomplit, une prophétie qui arrive bientôt à son terme. Il dit qu'il fera disparaître les larmes de tout visage. Avez-vous pleuré cette semaine? Alors on va le lire. Allez. Ésaïe 25, versets 5 à 9. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Tout à nouveau, frères et sœurs, toute forme de tristesse disparaîtra, toute forme d'agonie disparaîtra, toutes sortes de problématiques disparaîtra parce que nous serons finalement dans la présence de Dieu. Mais il est question pour nous d'accepter de changer. 2 Corinthiens 5, 17, je disais tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Amen. Et jusque-là, on est tous d'accord. Mais il est question pour nous d'accepter de changer. Hébreux chapitre 12, versets 27 à 29, il dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que veut-il dire? Accepter de changer, ça veut dire que je ne vis plus les choses pour me faire plaisir, mais je vis les choses pour faire plaisir à Dieu. Je ne cherche pas un culte qui me plaît, je cherche un culte dans lequel Dieu se plaît. Si je chante, excusez-moi, si je fais de la musique, si je fais quoi que ce soit pour une satisfaction personnelle, je ne suis pas sûr que Dieu soit satisfait. Je préfère entendre Dieu me dire, par l'action de son esprit, oui, l'approbation de Dieu. Entendre Dieu nous dire, j'aime ça. Sentir que la présence de Dieu, elle est telle qui touche des cœurs. Là, on se dit, Seigneur, on t'a rendu un culte qui t'est agréable. Mais Seigneur, je n'ai pas bien chanté, je n'ai pas mis un mi où il fallait. Vendredi soir, on a fait des répétitions de chant et on avait du mal. Moi, j'avais en tous les cas du mal, j'avais les doigts qui jouaient, chacun faisait ce qu'il voulait. Je n'ai pas compris, mais bon, ça arrive. Et il a fallu encore retravailler. Hier, dans la journée, je priais, je disais, Seigneur, on sent qu'il y a comme une forme d'obstacle, quelque chose qui voudrait nous empêcher d'avancer. Mais Seigneur, ça veut dire qu'on est dans la bonne, sur le bon chemin. Donc, Seigneur, maintenant, tu mets le caterpillar devant et tu rases tout. Amen. Et ce matin, on a fait la répétition. Ça coulait de source. On a même gagné du temps. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon quand c'est toi qui t'occupes de tout. N'est-ce pas? Mais pour rendre à Dieu un culte qui lui plaît. Non pas qui nous plaît. Accepter de changer, c'est aussi une question, frères et sœurs, de payer le prix. Et il est question d'être revêtu d'une tenue nouvelle. Mais pour se revêtir, il faut commencer par se dépouiller. Autrement, on devient un chrétien oignon. Voyez l'image? L'oignon, oignon. Alors, j'ose pas dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien oignon. Parce qu'un chrétien oignon, en général, fait pleurer. Un chrétien oignon, c'est qu'il a des couches. Mais le Seigneur nous demande, frères et sœurs, de nous dépouiller. Je ne peux pas revêtir quelque chose de nouveau, quelque chose que Dieu veut appliquer dans ma vie en gardant quelque chose d'ancien en dessous, parce qu'au bout d'un certain moment, je vais être empêché dans mes mouvements, je vais avoir trop chaud, je vais être dans une situation qui n'est pas cohérente. Et en plus, je vais continuer à sentir mon ancienne odeur. Elle n'est pas toujours bonne. Mais accepter à quelque part de laisser Dieu nous mettre à nu, nous enlever tout ce qui ne va pas dans notre vie, ces habits que nous avons utilisés, sur lesquels on a pu compter pendant un certain temps, des habits qui nous permettaient de rentrer dans certains milieux, qui nous permettaient de passer dans ce monde, mais qui aujourd'hui ne sont pas les mêmes habits que Dieu attend de trouver dans l'Église. Et je parle d'habits spirituels. Attention, ce n'est pas une question d'habits, c'est une question d'attitude de cœur. C'est une question de changement radical dans notre vie, dans notre être tout entier. Et après, il est question aussi pour nous de notre vie spirituelle. On l'a lu tout à l'heure, il est question pour nous de nous laisser remplir. Qui a envie d'être rempli du vin nouveau? Amen. Vous connaissez le livre des Actes, chapitre 2, versets 3 et 4. Il est question de ce moment de la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'on dira des chrétiens ce jour-là parce qu'ils parlaient en langue? Ils sont pleins de vin. C'est qu'ils ne sont pas arrêtés à l'apéro. Ils sont allés et on voit que la réalité n'était pas celle-ci. Alors je vous invite à faire une lecture, une dernière lecture si vous voulez, Actes chapitre 2 versets 12 à 21. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant pas que penser, ils se disaient l'un à l'autre, que veut-il dire ceci? Mais d'autres se manquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici qu'a été dit la parole du prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Est-ce que la Pentecôte est déjà arrivée? Qui dit oui? Alors, quelle est la suite? Quelle est la suite? On revient à la question du départ, dans quel temps vivons-nous? Est-ce qu'on est dans ces temps où l'Esprit de Dieu est répandu? Alors, il est question pour chacun de nous de chercher cette plénitude de l'Esprit. Amen! Et je voudrais encourager ceux qui peut-être pendant un certain temps ont été occupés à plein de choses, retrouver, excusez-moi, le feu du premier amour. Retrouver cette relation et cette vie de l'esprit et laissons Dieu parler au cœur. Amen. Et en même temps, oui, peut-être que les gens du dehors, ils vont se dire, oh là là, à 10h du matin, t'as vu, ils ont bu du vin doux. Ah, je sais pas d'où il est, mais il est bon. Dans un livre, et je ne me rappelle plus le titre, vous m'excuserez, il parle d'un réveil dans une église où l'église, elle priait depuis des années. Et un jour, le pasteur étant fatigué, il a demandé à un collègue, un évangéliste, s'il pouvait venir assurer les deux cultes de la journée. Il dit, j'aurais besoin juste d'un week-end pour me reposer, ça fait quelques temps maintenant, je suis fatigué. Et l'évangéliste, il dit, il n'y a pas de souci. Et ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé, ce qui s'est produit? C'est que le prédicateur qui prêchait, il n'a même pas eu le temps de prêcher. Il y a eu une telle effusion du Saint-Esprit, en effet un réveil. Ce réveil qu'ils avaient prié pendant des années, des années, des années, arrivé. Le pasteur, il était en train de se reposer. Mais c'est bien. Ce n'est pas lié, ne vous inquiétez pas. C'est que, en réalité, Dieu a un agenda qui est prêt. Et Dieu fait avec nous. Et sans nous. Certainement, ce frère avait fait le travail qu'il devait faire. Et il y avait un moment où il fallait laisser quelqu'un d'autre peut-être derrière. Ce n'est pas le problème. Mais telle a été l'effusion de l'esprit. Et c'est là que je voulais vous emmener. C'est qu'à l'autre côté de la ville, la caserne de pompiers avait le sentiment de voir des flammes s'élever vers le ciel. Et les pompiers sont arrivés. En se disant, il y a le feu. Mais quand ils sont arrivés sur place, en rentrant dans l'église, ils ont été eux aussi touchés par l'action du Saint-Esprit. Et les prostituées qui étaient dans la ville ont été attirées. Et les gens qui, à tel point qu'ils ont commencé, mais le culte a duré plusieurs jours. Plusieurs jours. Plusieurs jours. Et les personnes rentraient, confessaient leurs péchés, excusez-moi, pleuraient devant Dieu. Alors ça devient presque rare. Excusez-moi, mais la conversion, c'est quelque chose qui nous change, qui nous bouleverse, qui nous transforme. Alors, je ne dis pas qu'on doit sortir les larmes pour faire plaisir à qui que ce soit, mais ça nous bouleverse au point de nous remettre en question et de dire, Seigneur, jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, Seigneur? La conversion n'est pas une adhésion. La conversion, c'est un changement radical, transformation puissante. Et je dirais, si on était vide et vidé par la vie, Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Alors je pense que ce genre de choses ne sont pas que pour ailleurs. J'ose penser que ce n'est pas que dans tel ou tel pays que ce genre de choses doivent se passer. Et je crois que Dieu n'a pas vieilli. Il demeure toujours le même. Mais Dieu cherche, comme on l'a dit dès le départ de ce culte, des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui le prient, qui le louent. Et vous savez quoi? Quand on loue le Seigneur, Dieu touche des cœurs dans la ville. Et alors, l'image, c'est la mienne. Et il les met comme sur un tapis roulant et les emmène. On a des personnes nouvelles qui arrivent, on ne sait pas qui les amène, mais ils viennent. Non? On se dit, Seigneur, il y a un truc qui se passe. Vas-y, continue, Seigneur. Alors moi, je dis, Seigneur, tous les jours, mets de l'huile sur le tapis, fais-le bien rouler, pas qu'il s'arrête, Seigneur. Mais ça implique quoi? Première responsabilité, la nôtre, c'est qu'on puisse avoir un accueil qui montre la joie de Dieu dans notre cœur. Alors, attention, il y a bien des situations qui nous rendent tristes. Mais notre espérance, elle est en Christ et on sait que même au cœur de la tristesse, le Seigneur saura essuyer nos larmes. Amen. Deuxième chose, on ne fait pas du vieux, on ne fait pas du neuf avec du vieux, n'est-ce pas? Il n'est pas question d'appliquer, tiens, toi, une rustine à droite, une rustine à gauche, c'est bon, tu passes au check-up. Moi, je crois que le Seigneur va au-delà et le contrôle technique de Dieu est bien différent. Je suis allé voir un véhicule pour ma fille il y a quelques semaines et le monsieur me présente, ah mais vous savez le contrôle technique il est nickel. J'ai regardé le véhicule, j'ai dit oui. Il me dit, vous voulez dire quoi? J'ai dit là il y a un problème. Bon, je vous baisse le prix direct. J'ai dit encore, on n'a pas fini, je vais faire un tour et après je reviens. Et on a discuté après le prix. Mais vous savez, sur papier, on peut mettre plein de choses. Mais est-ce qu'on passe au contrôle technique de Dieu? Et après, dernière chose. Si nous voulons que Dieu amène du changement, croyons-nous que nous avons besoin de changement? Aimons-nous le changement? C'est pas ni Alléluia, ni Amen, c'est Est-ce qu'il est nécessaire, le changement? On le reconnaît. Mais changer, ça veut dire que Dieu peut, autant que constructeur, nous dire ça, ça ne marche plus dans ta vie. Laisse ta zone de confort. Quitte la belle plage avec le sable fin. Quitte le port et prends le large. Je crois qu'il y a un moment, frères et sœurs, on a investi dans notre vie spirituelle plein de choses et je le crois, chacun de vous prend du temps et je l'espère, dans la lecture, dans l'étude de la parole, dans la prière. Alors, je prends une image que j'ai donnée il y a quelque temps à quelqu'un. C'est un peu comme un beau bateau qu'on a retapé, on a refait la peinture, on a changé les voiles et on a recommencé à faire de la peinture, on a rechangé encore une fois les voiles, on a lustré, on a nettoyé et l'année d'après, on recommence. Mais le Seigneur te dit, c'est quand le moment où tu quittes le port, tu ouvres les voiles et tu laisses le vent de l'esprit souffler, tu commences à voyager, non? Parce que le but, c'est d'être un bateau qui ramène. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je suis prêt, je suis prête ce matin, puisque la promesse, elle est faite aux serviteurs et aux servantes. J'ai bien lu le texte. Vous avez la même version que moi. Serviteurs et servantes, Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit, mais Dieu veut se servir de nous parce que le temps de son retour est proche. Et vous avez vu, il est question de prophétie, il y aura des prodiges dans le ciel, sur la terre, mais en même temps, la lune sera changée en sang, il y aura du magnifique, mais il y aura aussi du horrible. Alors du horrible, je crois qu'on en voit tous les jours. Et le magnifique, c'est ici que ça doit se passer. Mais il faut qu'on dise, Seigneur, change-moi, je suis prêt à payer le prix. On va incliner nos têtes, on va dire encore au Seigneur ce matin, Seigneur, change ma vie, Seigneur. Seigneur, le tout, c'est pas de dire « je désire, Seigneur, être un homme nouveau ». Seigneur, c'est la volonté aussi de te laisser agir dans notre vie. Et tout ce qui ne va pas dans notre vie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'enlever. Seigneur, nous avons besoin que tu changes notre caractère. Seigneur, il faut que tu puisses, Seigneur, librement, Seigneur, nous dépouiller de notre orgueil. Nous dépouiller de notre égoïsme, nous dépouiller, Seigneur, de toutes ces choses qui, en effet, font de nous, Seigneur, quelqu'un de méchant. Et en réalité, le méchant, c'est celui qui sait ce que Dieu attend de lui, mais qui ne le fait pas. Dans ta bonté, Seigneur, tu t'es laissé, Seigneur, enlever toute chose pour arriver à la croix et encore donner tes mains, tes pieds, ton côté, ton front, ton dos, ton corps a souffert. Seigneur, tu as accepté de payer le prix pour notre changement. Seigneur, alors que nous devons payer un petit prix, et parfois, Seigneur, ça bloque, ça coince, ça râle. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter à dire « Oui, change tout, Seigneur, prends tout, transforme tout. » Et nous voulons te dire « Seigneur, s'il te plaît, agis. Seigneur, dans ma vie, agis. Seigneur, je ne veux pas être un bateau de parade, mais je veux être le bateau sur lequel Christ navigue. Seigneur, je ne veux pas me contenter de me dire « Je suis sauvé, alléluia, tout va bien. » Mais Seigneur, je me dois de penser à ceux qui encore ne te connaissent pas, de ceux qui n'ont pas encore réalisé, Seigneur, que, Seigneur, la fin est proche, ce monde se détruit, la méchanceté s'agrandit, Seigneur, et il y a besoin, Seigneur, de placer notre espérance, Seigneur, et notre vie éternelle en toi. Seigneur, change notre regard, s'il te plaît. Change même nos opinions, Seigneur. Transforme, Seigneur, nos visions personnelles dans la vision qui est celle de Jésus-Christ, le salut des âmes. Fais-nous rentrer pleinement, Seigneur, dans ce mandat qui est celui d'apporter ta parole, Seigneur, même dans les lieux les plus reculés, Seigneur. Parce que le moment où tout le monde aura entendu parler de toi, c'est là, Seigneur, que le son de la trompette va retentir dans le ciel. Seigneur, nous désirons être prêt à ce moment des noces. Et Seigneur, nous ne voulons pas que ce jour-là, tu puisses retrouver sur nous un habit, Seigneur, sur lequel nous avons appliqué quelques rustines chrétiennes, quelques beaux principes religieux, Seigneur, juste pour donner une façade, alors qu'en réalité, Seigneur, c'est pas ainsi que tu nous as invités à rentrer, Seigneur. Seigneur, encore que ta grâce et ta miséricorde viennent couvrir toutes nos faiblesses. Par nous-mêmes, on n'arrivera pas, Seigneur, à faire un dixième ou un millième de tout ce qu'il doit être fait pour changer. Mais ce matin, Seigneur, je voudrais te dire, s'il te plaît, viens au secours de tous ceux et celles qui te demandent, Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Alors j'aimerais qu'on prenne quelques instants. Peut-être dans votre cœur, c'est votre prière, Seigneur, aide-moi à changer. Alors faites-la ce matin, Seigneur. Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, je ne veux pas que tu mettes du vin nouveau dans une outre vieille, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur,